Bienvenue, je suis Aurélie et je suis ravie de t'accueillir dans Post Boost. J'ai débuté ma carrière dans les ressources humaines, c'est mon domaine coup de cœur, celui que je n'ai jamais quitté. J'en connais tous les recoins, les joies, les satisfactions, mais aussi les défis et difficultés. La pression, les exigences des uns et des autres, et toi, au milieu, qui essaye de garder le cap avec le sourire. Alors que tu sois recruteuse, coach emploi ou RH, ce podcast est fait pour toi. J'ai conçu Post Boost dans un seul objectif, vitaminer ta vie de RH. À chaque épisode, je te propose une nouvelle clé pour avancer pas à pas. Le temps d'un épisode, appuie sur pause et profite. Bonne écoute. Bienvenue, tu écoutes l'épisode 12 de Post Boost, comment développer sa posture. Il y a des chiffres qui marquent. Le 12 est important pour moi, c'est celui de l'Aveyron, le département où je suis née et où j'ai grandi. Les Aveyronnais partagent deux points communs. L'attachement fort à ce département et une certaine fierté d'être Aveyronnais, alors vive le 12. Tu ne sais peut-être pas où l'Aveyron se situe, mais si je te dis Cyril Lignac et José Bové, je suis sûre que tu vois. Qu'est-ce que ces personnes incarnent ? José incarne l'attachement fort à la terre, un militantisme passif mais combatif. Et Cyril, c'est le bien manger, mais surtout faire aimer la cuisine. Peut-être que comme moi, tu avais suivi tous en cuisine pendant les différents confinements. Le lien qui les unit, c'est la gastronomie, la terre, mais aussi la posture. La posture qui inspire, qui donne envie et qui engage. Dans ma vie, il y a différents moments où je me suis posé des questions sur ma posture. Quand je suis arrivée sur un nouveau poste, quand de nouveaux collègues sont arrivés ou quand j'ai été promue. Et dans tous les cas, on se pose souvent la même question, est-ce que j'ai la bonne posture ? Comme d'habitude, on va démarrer par ma définition de la posture professionnelle, puis je te donnerai mes conseils pour faire le point sur ta posture actuelle et je te donnerai quelques pistes pour la faire évoluer. C'est parti pour le sujet du jour, comment développer sa posture. Tu le sais, je débute toujours les épisodes de la même manière avec le back to basic, c'est quoi la posture professionnelle ? Alors, j'ai cherché une définition et finalement, je me suis aperçue que c'était assez simple. Au sens propre, la posture signifie la position du corps ou d'une de ses parties dans l'espace. Et au sens figuré, posture signifie l'attitude adoptée pour donner une certaine image de soi. C'est donc à la fois la fonction que j'occupe dans une organisation de travail et l'attitude que j'adopte, consciemment ou pas d'ailleurs, pour donner une certaine image de moi. Cela paraît simple, dit comme ça, mais dans la réalité, c'est quelquefois un peu plus complexe. Je te propose un exercice de visualisation. Alors, sauf pour toi, Bérangère, si tu écoutes encore cet épisode dans ta voiture, mais pour les autres, je vous invite à fermer les yeux et à imaginer la situation suivante. Tu es sur une planche, tes deux pieds sont écartés sur la planche, mais sous la planche, il y a une boule. Et ta mission, c'est trouver le bon équilibre. Car on cherche toutes en permanence la cohérence entre notre pied gauche, ce qui nous est personnel, c'est-à-dire nos valeurs, nos représentations, nos intentions, ce qui fait que nous sommes uniques et différents des autres, et notre pied droit, ce qui nous est externe, les valeurs de notre organisation de travail, les attentes sociales et professionnelles, et même les normes de notre job. Je te vois venir, tu veux savoir comment tu dois faire pour garder cet équilibre. Je vais y venir bien sûr, mais d'abord je veux que tu aies deux idées importantes en tête. La première, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture en soi. Et la deuxième, c'est que la posture, elle n'est pas figée. Elle va évoluer de façon graduelle, par tes expériences, tes périodes de flou, tes renoncements, tes épreuves. Et cette transformation, elle est aussi réactivée à l'occasion de changements organisationnels, parce que les prescriptions et les normes changent, ce qui est donc sous ton pied droit. C'est d'ailleurs là que ton sentiment d'efficacité personnelle peut te jouer des tours. Je t'en ai parlé dans l'épisode 7, alors si tu l'as loupé, ou si tu veux revoir mes astuces pour le développer, je te rajoute le lien dans les notes de l'épisode. Au travail, on n'attend pas simplement de toi que tu détiennes les bons diplômes ou les bonnes compétences métiers. On attend de toi que tu aies la fameuse bonne posture, que tu mobilises les fameuses bonnes soft skills. Alors dans les RH, c'est encore une autre histoire, car non seulement tu dois avoir la posture de RH, mais tu dois aussi adopter une posture qui te permet de créer des relations de confiance avec les managers. Et oui, car souvent entre toi et les collaborateurs, il y a leur N plus 1. Dans l'épisode 13, les clés de la relation manager et RH, je vais accueillir Delphine Pecot. Après plusieurs années en tant que RRH dans les domaines de la logistique et de la distribution agroalimentaire, Delphine est aujourd'hui RH en temps partagé. Delphine va partager sa vision de la fonction RH. Peut-être que tu vas te reconnaître dans la vision de Delphine ou pas, mais moi, ce que j'ai aimé dans cette rencontre et dans nos échanges, c'est que Delphine donne plein de bons conseils. Pas des usines à gaz, hein, mais des conseils pleins de bon sens, ce que l'on a tendance à souvent oublier. Et tu le sais, post-boost, c'est pas de blabla, que du concret. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire pour écouter cet épisode, t'abonner sur la plateforme que tu utilises. Revenons au sujet du jour, comment développer sa posture. Je te parlais donc soft skills. Oui, c'est mon sujet du moment. J'en ai parlé lundi dernier avec Céline Labonne. Tu connais donc ma vision et ma définition. La soft skills clé pour développer sa posture, c'est la conscience de soi. Alors, je n'ai pas de recette miracle, mais j'ai quelques idées que je vais te partager. La clé numéro 1, c'est se regarder en toute transparence. C'est pas facile, je sais, et pourtant c'est essentiel. Comment tu peux cultiver la conscience de soi ? D'abord, il faut que tu comprennes ce que c'est la conscience de soi. Finalement, c'est tout simple, c'est bien se connaître. C'est se définir de façon claire et cohérente et en constante adaptation avec ce qui t'entoure. Sophie Bruneau est enseignante-chercheure en psychologie sociale à l'Université de Rennes 2 et elle a mené une étude sur le concept de la conscience de soi. Alors, que démontrent ces résultats ? Que les personnes qui ont une forte conscience d'eux-mêmes ont un haut niveau de conscience professionnelle, ont une satisfaction plus forte dans leurs différentes sphères de vie et surtout, ils ont une plus grande résistance au stress. Allez, à vous, c'est alléchant. Voici donc les trois caractéristiques communes à ces personnes qui sont au clair avec la conscience de soi. La première, c'est qu'elles savent identifier leurs préférences. La deuxième, c'est qu'elles connaissent leurs principales forces, mais aussi leurs points de progrès. Et la troisième, c'est qu'elles savent ce qu'elles veulent atteindre et elles se donnent des objectifs atteignables. Alors, comment cultiver la conscience de soi ? Je te propose trois exercices en lien avec les trois points que je viens de te donner. Alors, le défi numéro 1, c'est identifier tes préférences. Qu'est-ce que j'entends par préférence ? J'entends deux choses. À la fois tes valeurs, mais aussi tes drivers, c'est-à-dire ce qui te motive dans ta vie. Je te propose donc de lister 1. Les 10 valeurs qui sont essentielles pour toi, celles sans qui tu ne pourrais pas travailler, la confiance, l'autonomie, le respect, les règles, la liberté, les process. À toi de voir, les valeurs, elles sont propres à chacune d'entre nous. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu réfléchisses à tes drivers, c'est-à-dire ce qui est essentiel pour toi au travail, ce qui fait que tu es contente d'aller travailler le matin. Ça peut être le pouvoir, c'est-à-dire la possibilité de prendre des responsabilités et des décisions. Ça peut être le leadership, engager et mobiliser les gens qui t'entourent. Ça peut être la curiosité pour participer à des projets différents et innovants. Ça peut être l'ordre, un agenda précis, des périmètres d'action bien établis. Ça peut être la coopération, travailler à plusieurs pour partager. Ça peut être l'impact sur les gens, sur le monde ou sur les choses. Ça peut être par exemple aussi la créativité pour créer, pour changer, pour inventer. Ça peut être le raisonnement. La capacité que tu aimes à résoudre des problèmes, à débloquer des situations. Alors voilà quelques idées, mais bien sûr, sens-toi libre d'en ajouter. Il y a forcément des drivers qui sont les tiens et que je n'ai pas cités. Donc l'idée, c'est également que tu ailles lister tes 10 drivers. Le deuxième défi que je te propose, c'est donc d'identifier tes forces, mais aussi tes points de progrès. Alors par force, je pense à plusieurs choses, dont les compétences techniques, mais aussi les activités que tu réalises au quotidien. Alors, pour les compétences techniques, c'est très simple. Tu peux simplement faire un tableau à double entrée. En ligne, tu vas lister toutes tes compétences et en colonne, tu vas leur affecter des valeurs. Dans la colonne 1, tu vas leur affecter un degré de maîtrise. Est-ce que je sais faire ? Est-ce que je ne sais pas faire ? Ou est-ce que je sais faire, mais je dois encore apprendre ? C'est les trois caractéristiques de cette première colonne. Je sais faire, je ne sais pas faire ou je dois encore apprendre. En deuxième colonne, tu vas lister ton degré de kiff. J'aime le faire ou je n'aime pas le faire. Tu visualiseras ainsi tes points forts et tes points de progrès, mais aussi ce que tu aimes. Et pour moi, c'est là aussi que la conscience de soi est très importante. Pour sortir du prisme, je maîtrise ou je ne maîtrise pas, et pour aller sur le j'aime et j'ai envie d'utiliser. Pour les activités que tu réalises, c'est pareil, j'ai un petit exercice simple. Alors moi, je me suis longtemps trompée. Je mettais la barre trop haut et du coup, j'étais complètement paniquée. Mais j'ai appris à doser tout ça avec une méthode simple, le cercle de feu. Alors, deuxième exercice de visualisation, toujours pas pour toi Bérangère, si tu es toujours sur ton trajet domicile-travail. Donc voilà l'idée du cercle de feu. Quand tu vois un cercle en feu, à vous c'est flippant. Alors, la plupart des gens se disent que le plus sage, c'est de tenter de passer vite au milieu pour ne pas se faire brûler. Mais moi, je pensais que je pouvais sauter au-dessus du cercle. Du coup, je me mettais une pression de dingue sur des activités où je n'avais pas confiance en moi. Résultat, mon estime de moi, elle était plutôt naze. Je procrastinais beaucoup et j'entretenais une conscience de moi assez délétère. Alors, je vous rassure, c'est tout ça, toute seule, dans mon coin, sans aucune injonction externe, mis à part l'ultra-exigence que je me donne et les objectifs que je me mettais qui étaient beaucoup trop ambitieux. Donc, le cercle de feu, c'est simple. Je vais t'en parler et c'est en trois étapes. La première étape, c'est que tu vas lister toutes les activités qui occupent ton quotidien professionnel. Et je dis bien toutes les activités qui occupent ton quotidien. La deuxième étape, c'est que tu vas leur affecter une place dans ce fameux cercle de feu. Au centre, c'est ta zone de confort. Pour réaliser ces activités, il n'y a aucune anxiété particulière quand tu le fais. Du coup, c'est plutôt confortable. Au milieu, ce sera la zone d'apprentissage. C'est des activités qui, chez toi, génèrent de l'anxiété, mais ça reste à peu près gérable. Et à l'extérieur, c'est la zone de panique, c'est la zone de feu. Alerte rouge, tu stresses, tu as les mains qui transpirent, tu as envie de fuir, tu procrastines beaucoup. Bref, ce sont des choses qui te terrorisent. Donc, tu affectes les activités par rapport à leur degré d'anxiété, ou en tout cas au degré d'anxiété qu'elles génèrent chez toi. Au centre, ta zone de confort, au milieu, ta zone d'apprentissage, et à l'extérieur, ta zone de panique. Et la troisième étape, c'est que tu t'interdis d'aller dans ta zone de panique, bien sûr, mais aussi dans ta zone d'apprentissage. Tu commences par les activités qui sont dans ta zone de confort. Et quand tu auras fini ces activités-là, tu passes à celles dans la zone d'apprentissage. Et quand tu les auras terminées, tu passes à celles qui sont dans ta zone de panique. Et tu vas ainsi apprendre à doser, à avancer pas à pas. Tu vas donc développer la soft skills clé, la conscience de soi. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir avancer sur les trois points dont nous avait parlé Sophie Bruno dans son étude. Tu vas donc développer un haut niveau de conscience professionnelle, puisque du coup, tu avances pas à pas, donc ta confiance, elle arrive. Tu vas être plus satisfaite parce que tu vas te confronter à des tâches que tu réalises en confiance et que tu réussis. Et puis, au fur et à mesure, tu vas développer ta résistance au stress. Passer à l'action, c'est toujours un peu flippant et pourtant c'est hyper important. Moi, je te conseille d'écouter l'épisode 146 du podcast du marketing. Le podcast du marketing, il est animé par Estelle Ballot. Et dans cet épisode, elle a reçu Roger Ormière sur le sujet « L'importance du passage à l'action ». Moi, j'ai trouvé cet épisode hyper intéressant parce qu'on a tous été bloqués à un moment donné. Et on s'est tous posé les mêmes questions de est-ce que je ne ferais pas mieux de passer à l'action, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et vraiment, cet épisode, il donne des clés hyper intéressantes pour comprendre ce qui nous bloque, pour reprendre les rênes et surtout pour découvrir tous les bénéfices dans le fait de se mettre en changement. Donc, je te conseille d'écouter cet épisode et bien sûr, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Alors, en conclusion, comment on peut trouver sa posture professionnelle ? Aujourd'hui, je t'ai donné trois clés et deux défis. Donc, les trois clés et les deux défis, c'était pour développer ta conscience de soi, pour faire le point sur toi et aussi pour avancer par la stratégie des petits pas. Moi, je suis persuadée que c'est par celle-ci qu'on avance. Et donc, éviter la fameuse zone de panique, celle du cercle de feu. Ça va te permettre à la fois de développer tes points forts et d'identifier tes pistes d'amélioration. Alors, comme je te l'ai dit un peu plus haut, la conscience de soi, c'est important, bien sûr. Et quand on est RH, on est confronté à d'autres défis, dont celui de trouver sa place en tant qu'ORH face aux managers qui sont dans 90% des cas entre toi et tes salariés. C'est le sujet du prochain épisode de Post Boost avec Delphine Pécaud. Alors, le plus simple pour toi, c'est de t'abonner sur ta plateforme d'écoute et d'activer les notifications. Alors, sur iTunes, tu peux aussi laisser un avis écrit et puis lâcher des petites étoiles. Et sur Spotify, ce sont juste des étoiles. Alors, à quoi ça sert ? Tout simplement, ça aide Post Boost à remonter dans les pages des différents moteurs de recherche. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à lundi prochain.